Nous allons surtout nous préoccuper de la liberté face à l'obéissance à la volonté de Dieu. Je rappelle que faire la volonté de Dieu, cela, c'est le désir, c'est ce que Dieu nous demande. Essentiellement, on pourrait dire que faire la volonté de Dieu, cela contient absolument tout ce que Dieu attend de nous. La Bible établit des limites. C'est le propre des commandements de Dieu et des principes évangéliques. Je ne dis pas des commandements à prendre uniquement à la lettre, mais des principes évangéliques, c'est leur caractère dominant d'être des limites. Ce sont des limites. Or, ces limites font-elles échec à la liberté dont Dieu entend que l'homme né de nouveau jouisse. Il s'agit de l'homme né de nouveau, de l'homme converti. On pourrait dire, par exemple, ceci. La Bible nous dicte ce que nous devons penser. Ce que nous devons penser. Et notre pensée, alors, n'est donc plus libre si la Bible nous impose une pensée, c'est que nous ne sommes plus libres de penser à notre gré. D'autre part, nous pourrions dire que la Bible nous impose une conduite à suivre. Et par conséquent, dirions-nous, notre volonté de vivre librement est donc entravée. Nous pourrions dire, notre volonté n'est plus libre. Alors, je vais tout de suite répliquer à ces deux points. Notre réplique sera celle-ci. Si nous disons que nous ne sommes plus libres de penser, puisque la Bible nous impose une pensée, c'est que nous envisageons donc de penser comme pensent les autres hommes. Mais attention, il faut faire là un peu de documentation sur l'état de notre société actuelle, sur la mentalité qui s'y est formée. Et nous pouvons dire avec sûreté que notre pensée, la pensée de l'homme, si elle se laisse influencer par la mentalité du monde, ne peut pas être libre. Ne peut pas être libre. Ce n'est pas le moment d'illustrer cela, de le démontrer, mais si vous y réfléchissez un peu, vous verrez vous-même que l'homme qui n'appartient pas à Jésus-Christ et qui par conséquent vit selon le monde, l'homme ne peut pas penser librement. Il ne peut pas penser librement parce que sa pensée est trompée. Je me suis ingénié une fois, à organiser les différentes activités du monde, les différents champs, si vous voulez, où la pensée de l'homme se donne carrière, de diviser cela par secteur, petit secteur, n'est-ce pas? J'ai collationné un certain nombre de petits secteurs dans lesquels je répartissais tout ce qui pouvait préoccuper la pensée du monde. Et je me suis aperçu, en examinant les choses de près, qu'effectivement, comme le Seigneur Jésus l'a dit, celui qui gouverne le monde, c'est-à-dire Satan, est bien le père du mensonge, et il a répandu dans le monde, et particulièrement dans le monde actuel, il a répandu le mensonge et on en trouve les traces, mensonges, hypocrisie, dans tous les secteurs. Chers amis, j'ai eu cet avantage, peut-être, de faire une carrière de fonctionnaire, et par conséquent, au cours de cette carrière, vous pensez bien que j'ai réfléchi, d'autant plus que j'étais chrétien, j'ai observé bien des choses, et avec cela, je peux aujourd'hui me représenter vraiment ce qu'est le mensonge dans le monde. Il est extraordinaire, il s'insinue partout, absolument partout. On ne peut pas, si l'on ne fait pas une réflexion profonde, une observation véritablement profonde, on ne peut pas se rendre compte de ce qu'est l'hypocrisie et le mensonge dans le monde. Et j'en reviens donc à notre propos, la pensée de l'homme qui n'est pas à Jésus-Christ sera nécessairement trompée. Elle sera séduite, elle sera livrée à l'esclavage d'une imagination suggérée par la mentalité profane actuelle, elle sera victime de l'erreur, elle sera travaillée par la convoitise, c'est un mot biblique, et cela, comme le dit si bien l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 17. Chapitre 4, verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Voilà le contraste que ce passage nous présente entre l'homme qui vit dans le monde païen, qui est une partie du monde païen, et l'homme qui, au contraire, a appris Christ, a été transformé par lui et est entré dans la vie nouvelle, la vie de l'homme nouveau. Alors, donc, l'homme nouveau qui provient d'une action de dépouillement, il a été dépouillé, eu égard à sa vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, il a été renouvelé dans l'esprit de son intelligence et il a revêtu l'homme nouveau. Remarquez ceci, c'est que dans la Bible, il n'est jamais question de l'homme nouveau au pluriel, mais au singulier. L'homme nouveau, il est question aussi de revêtir Christ, si bien que l'homme nouveau, c'est Christ, mais Christ regardé comme le type, comme l'archétype de cet homme à l'image duquel nous devons parvenir, par la grâce de Dieu. Alors, étant libérés par Christ, qu'allons-nous faire pratiquement de la liberté? Nous sommes libres, libérés de tout ce qui exerçait sur nous une direction, une contrainte, des entraves. Nous sommes libérés, que faire? Eh bien, je répondrai, bien entendu, ce qu'il faut faire, c'est s'appliquer à vivre la vie nouvelle. Si l'on est libéré par Christ, il faut vivre la vie nouvelle. La liberté, tout comme la parole de Dieu, nous est donnée pour être vécue. Nous l'avons déjà dit cela hier, une liberté que l'on envisagerait simplement comme une abstraction ne serait pas une liberté qu'il serait possible de conserver. On la perdrait immédiatement. La liberté, tout comme la parole de Dieu, doit donc être vécue. Et il faut apprendre Christ et apprendre de lui à vivre la vie nouvelle et par conséquent à vivre la liberté. Comment cela ? J'irai très vite, bien sûr, pour répondre à cette question. Pour vivre la vie nouvelle, il faudra, notre texte, le texte que nous venons de lire, nous l'indique, il faudra revêtir l'homme nouveau. Il y a donc un type d'homme que Dieu a vu d'avance, qu'il a, on peut dire, créé, il nous a créé en Jésus-Christ. L'expression figure dans cette même épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Nous avons donc été créés en Jésus-Christ. Si nous sommes passés par la nouvelle naissance, nous avons été créés. C'est donc vers un type d'homme créé spécialement que Dieu nous dirige. C'est vers ce type d'homme, c'est ce type d'homme qu'il désire que nous revêtions. Il s'agit donc de revêtir cet homme. Et pour cela, il faut bien sûr en prendre conscience, le désirer ardemment avec sa foi et le demander à Dieu, bien entendu. Il faudra marcher en nouveauté de vie, mais cela est une autre manière d'exprimer ce que nous venons déjà de dire. Il faudra être une nouvelle créature, cette nouvelle créature n'étant autre que cette reproduction en nous de l'homme nouveau ou reproduction de Christ. En somme, c'est un Christ qui doit se former dans tout être humain et qui est passé par la nouvelle naissance. C'est un Christ qui tout d'abord est embryonnaire, je n'ai pas peur de l'expression, et qui va se développer au fur et à mesure de la croissance. Un Christ donc doit se former, l'apôtre Paul dit aux Galates qu'il a hâte, que Christ soit formé en eux. Et je pense que Dieu a hâte que Christ soit formé, apparaisse bien en nous et que nous arrivions jusqu'à la stature parfaite du Seigneur. Pour vivre la vie nouvelle, il faudra nécessairement mettre en pratique toute la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu, non pas ce qui nous plaît, ce qui nous semble le meilleur, le mieux conforme à nos pensées, à peut-être l'idée que nous nous faisons de la vie chrétienne. Non, il faudra tout mettre en pratique. Et c'est là un point sur lequel on a insisté au cours des messages que vous avez entendus jusqu'ici. Il est très important, il faut absolument que tout soit mis en pratique. Et cela sera obéir à Dieu. Mettre la parole de Christ, de Dieu en pratique, c'est obéir à Dieu et à Christ. Vous savez que le Seigneur Jésus nous a parlé lui-même de cette mise en pratique. On fait chanter cela aux petits-enfants. L'homme qui a fondé sa maison sur le roc est celui qui met la parole de Dieu en pratique, et l'homme qui fonde sa maison sur le sable, la pluie est tombée, les vents ont soufflé, n'est-ce pas? C'est très gentil de faire chanter ça aux enfants, mais pensons bien que c'est quelque chose qui est là devant nous et qui nous dit, c'est pour toi, il faut que tu mettes la parole de Dieu en pratique. Et nous sommes amenés ainsi à dire qu'il n'y a pas d'opposition entre la liberté que nous recevons de Christ et l'obéissance à Dieu. Il n'y a pas opposition. Alors, c'est là que notre, peut-être, notre sens logique ordinaire se trouve un petit peu déconcerté. Il n'y a pas opposition, pourtant il nous semble bien que si nous sommes obligés d'obéir à des directives, des directions, à des commandements, à des principes évangéliques, notre liberté s'en trouvera entravée. Eh bien, non, non. Là, évidemment, il y aurait toutes sortes de choses à dire, et notamment, il faudrait rappeler ceci. C'est que tout l'enseignement que Dieu nous adresse par le moyen de sa parole et de son esprit, tout l'enseignement est établi sur une contradiction. Une contradiction. Je ne parle pas des contradictions que nous avons pu relever d'un texte par rapport à l'autre, il nous semble qu'il y ait des contradictions, tout cela se résout aisément. Mais je dis que il y a dans l'enseignement lui-même est établi sur une contradiction. Le vieux Siméon, prophétisant alors qu'il avait l'enfant Jésus dans les bras, de dire « cet enfant sera un signe qui provoquera la contradiction ». Et ça, c'est toute la carrière de Christ. Ça, c'est toute sa mission. C'est toute son œuvre présente qui est fondée sur une contradiction. Christ contredit ce qu'il y a dans le monde, contredit même, par conséquent, notre logique. Et il peut le faire, étant donné qu'il apporte, lui, un élément hautement surnaturel. Il y a contradiction, mais cette contradiction nous fait passer tout simplement de la logique courante, logique qui est à courte vue et logique qui est souvent fausse, nous fait passer de la logique humaine, si vous voulez, de la sagesse humaine à la sagesse de Dieu. Hein, nous fait passer, par conséquent, à une logique, car Dieu, lui, a une logique à lui, et cette logique est parfaite, elle est bien tout autre que celle des hommes. L'obéissance que Dieu demande à ses enfants est donc libre, et ne peut être que cela. Nous avons déjà esquissé cela hier, une obéissance sans liberté serait tout simplement une contrainte, ça ne pourrait plus s'appeler obéissance, ce serait la contrainte, l'esclavage. L'obéissance, par exemple, d'un enfant qui a des parents très sévères, très durs, qui constamment dictent à leurs enfants ce qu'ils doivent faire, très exactement, les enfants obéissent à contre-cœur, mais ils obéissent parce qu'ils craignent, ils ont peur des parents. Eh bien, ce n'est pas cette obéissance-là que Dieu veut. Il ne veut pas que ce soit sous l'empire de la peur, la crainte de l'Éternel, la crainte filiale de l'Éternel étant tout autre chose. Il ne veut pas que ce soit sous l'empire de la peur. Or, la liberté que nous avons reçue de Christ, si elle ne s'employait pas dans l'obéissance à Dieu, elle se perdrait. Elle se perdrait tout aussitôt. Ah, chers frères et sœurs, pensez bien à cela. Cette liberté que nous avons de Christ, si elle ne s'emploie pas dans l'obéissance à la parole parfaite de Dieu, eh bien, elle se perd. En effet, l'asservissement aux aspirations du monde réapparaîtrait tout aussitôt en nous. Et c'est ce qui arrive dans certaines expériences malheureuses de certains chrétiens qui s'affaiblissent, qui se laissent un peu aller, qui se laissent reprendre un petit peu par le monde, un petit peu ou beaucoup par le monde, et immédiatement l'asservissement réapparaît. L'asservissement que nous avions abandonné réapparaît. Les puissances hostiles à Dieu nous reprendraient bien vite si nous n'utilisions pas notre liberté dans l'obéissance à Dieu. C'est donc par l'obéissance que notre liberté nous tiendra fortement unis à Christ, qui est source de vie, source de la vie nouvelle. C'est par l'obéissance. En effet, si nous relâchons dans l'obéissance, immédiatement le lien avec le Seigneur Jésus se distend. Or, que nous a demandé le Seigneur? Que nous a-t-il dit? Quel est son impératif? Demeurez en moi. Ce qui veut dire, maintenez-vous en moi. Maintenez-vous dans une relation vivante avec moi. Maintenez-vous en moi. Ça, c'est très important, et on l'a mis sur nos petits, la couverture des petits recueils de cantiques. Demeurez en moi. Ça, c'est excessivement important. Je voudrais vous faire remarquer, je vais très vite parce que la montre va encore plus vite que moi. Je voudrais vous faire remarquer une chose, mais vous allez tout de suite en convenir. C'est que les textes bibliques qui nous appellent à l'obéissance sont tous, vous entendez bien, tous conditionnés par la liberté. Par la liberté. Ce ne sont pas des textes qui nous disent « Tu vas faire ceci, rien que ceci, et tu ne feras rien d'autre. » Non, ils sont tous conditionnés par la liberté. Pour le caractériser rapidement, je vous rappellerai qu'il y a beaucoup de « si » dans l'Écriture. Par exemple, « si tu obéis, si vous obéissez, » Voyez-vous, comment Dieu, n'est-ce pas, nous appelle, nous, en tant que créatures qu'il veut libres, si vous obéissez. L'apôtre Paul, dans le chapitre 6 des Romains, emploie même cette formule, s'adressant aux Romains, « Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine. » Il constate l'obéissance de ces chrétiens, mais... Vous avez obéi de cœur, vous avez obéi librement, avec joie. C'est votre cœur qui vous a porté dans l'obéissance. Et cette obéissance-là, elle a été naturellement agréable à Dieu. Et lorsque nous lisons les invitations du Seigneur Jésus, et particulièrement celle du chapitre 15 de Jean. C'est un chapitre admirable. Je sais pas, moi, on arrive à dire que tout est admirable, mais quand on tient quelques passages de la Bible, évidemment, on ne peut pas s'empêcher parler d'admiration. Eh bien, dans Jean, chapitre 15, il y a ceci, par exemple, au verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. » Vous voyez les « si », n'est-ce pas? Vous voyez, il n'y a pas, en somme, de commandement rigide, c'est un commandement qui est offert à des hommes et des femmes libres. La parole de Dieu est en son tout, donc une parole de liberté. Et Jacques nous dira la loi parfaite de liberté. Loi parfaite de liberté. Et elle est une semence de liberté. Nous aurons l'occasion peut-être d'insister davantage sur ce fait qu'elle est aussi une semence de liberté, c'est-à-dire que là où elle est entendue, où elle est reçue, ce matin on nous a parlé de recevoir, n'est-ce pas, de recevoir. Eh bien, recevoir la parole et recevoir le Saint-Esprit. Eh bien, là où la parole est reçue, là apparaît la liberté. Et je vous rappelle ce texte déterminant à ce sujet de Paul dans 2 Corinthiens chapitre 3 et verset 17, est très important. Le matin, notre frère l'a encore cité. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et cette proclamation, pour moi, c'est une grande proclamation, là, que l'Esprit a donnée à Paul, une grande proclamation. Cette proclamation peut s'entendre de plusieurs manières. Je ne vais pas détailler cela maintenant, mais elle s'entend de plusieurs manières, de tous sens. On peut dire que là où est l'Esprit du Seigneur, et là, par conséquent, où est la vie nouvelle, eh bien, là est la liberté. Et c'est pourquoi je disais hier que l'obéissance est génératrice de liberté. La vie nouvelle est une vie qui procure ce sentiment. Le mot est peut-être bien faible. Ce sentiment, cette connaissance intérieure de la vraie liberté. La liberté apparaît. Pourquoi ? Parce que la vie nouvelle atteint un optimum. La vie nouvelle, elle est parfaite. Ce que Dieu nous donne, c'est quelque chose de parfait. Dieu ne peut jamais nous proposer quelque chose qui soit un moyen terme, qui soit en dessous de l'absolu et de la perfection. L'homme nouveau est parfait. C'est par conséquent un type d'homme parfait qu'il nous faut revêtir. C'est Christ. C'est Christ lui-même. Il ne faut pas croire que cela est au-dessus de nos moyens. Dieu nous donne les capacités de parvenir à cela. Mais lorsque nous arrivons à la stature parfaite de Christ, à la stature de cet homme nouveau, alors là, nous jouissons d'une vie dont les grands caractères tels que joie parfaite et paix sont présents. Le royaume de Dieu, c'est la joie et la paix par le Saint-Esprit. Donc, nous trouvons cela, nous arrivons à l'optimum de la vie. Même maintenant, au cours de notre pèlerinage sur la terre, de notre vie présente, existence présente, nous trouvons cette vie-là. Et lorsque nous réalisons cette vie, lorsque cette vie est réalisée avec sa paix, avec sa joie, alors, chers amis, nous avons là, nous ressentons la liberté. Parce que la liberté dépend précisément de la haute qualité, disons de la perfection de la vie. Si aujourd'hui, par exemple, votre vie physique pouvait atteindre à la perfection, vous auriez le sentiment, la connaissance intérieure de la liberté. Vous vous sentiriez en pleine liberté. Par conséquent, la liberté, c'est d'atteindre, par les moyens que Dieu nous propose, d'atteindre à la vie de l'homme nouveau, à la vie nouvelle, où il y a la joie et la paix. Je vais maintenant, bien sûr, terminer. Quelques mots encore et je m'arrête pour ne pas dépasser le temps qui m'est imparti. Disons simplement, alors maintenant, en conclusion, que la liberté et l'obéissance sont inséparables. Vouloir concevoir une liberté en dehors de l'obéissance à Dieu, c'est impossible, absolument impossible. Et combien d'hommes en font l'expérience dans l'existence actuelle dans le monde ? Il n'y a pas de liberté sans obéissance à Dieu, ni d'obéissance sans liberté. Pas de liberté sans l'obéissance, et pas d'obéissance possible à Dieu sans la liberté. Dieu n'en veut pas. Et si bien que nous pouvons dire que l'obéissance contrainte Nous avons dit tout à l'heure qu'une obéissance contrainte, c'était un esclavage, ce n'est pas une véritable obéissance. Mais j'emploie quand même l'expression. L'obéissance qui, supposons-le, serait contrainte. Supposons-le, cela arrive malheureusement. L'obéissance contrainte fait tomber dans le légalisme et dans ce qu'on peut appeler le moralisme. Et ne croyez pas que la morale chrétienne n'ait pas eu dans le monde de bons effets. Aujourd'hui, on la rejette. On l'a rejetée hautement à la Chambre des députés, il y a quelques années. Hautement, on a rejeté, mes amis, ça, on ne le sait pas toujours, on a rejeté la morale chrétienne. Mais cette morale chrétienne, ce n'est pas elle qui nous introduit dans la vie nouvelle. Et elle en est bien incapable. Et elle est à mettre sur le pied, le même pied que le légalisme. Et pour vous montrer cela, je terminerai sur cette citation dans l'épître de Paul aux Colossiens. Colossiens chapitre 2, verset 20. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, ça c'est clair. Oh, écoutez, je vais faire une chose, je vais prendre la Bible en français courant. Elle a souvent de très bonnes expressions. Et je vais, même si on a à son égard certaines réserves, ça c'est une autre affaire, mais moi j'ai découvert dans cette version d'excellentes expressions qui sont même bien plus proches du sens littéral de la langue du Nouveau Testament, le grec. Eh bien, prenons Colossiens chapitre 2 et verset 20. Vous êtes mort avec le Christ et vous avez été délivrés des forces spirituelles du monde. C'était justement pour écarter surtout ce mot rudiment qu'il est difficile peut-être maintenant de comprendre. Vous avez été délivrés des forces spirituelles du monde. Il y a des forces spirituelles, en effet, des forces spirituelles démoniaques qui s'exercent sur le monde. Le monde est le théâtre où ces puissances démoniaques s'exercent. Et forcément, nous en sommes victimes. Les hommes qui ne sont pas à Christ en sont victimes. Vous êtes morts avec le Christ et vous avez été délivrés des forces spirituelles du monde. Alors, pourquoi vivez-vous comme si vous apparteniez à ce monde? Pourquoi vivez-vous comme si vous apparteniez à ce monde? Pourquoi acceptez-vous qu'on vous impose des règles de ce genre? Ne prends pas ceci, ne goûte pas cela, n'y touche pas. Elles concernent des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Il s'agit là de règles et d'enseignements dus aux hommes. Voyez-vous, le légalisme, c'est une forme d'enseignement où l'homme s'introduit, malheureusement, et il veut introduire une autorité à lui. C'est pourquoi le légalisme ne peut absolument pas porter de bons fruits. Certes, ces règles ont une apparence de sagesse avec leur culte qui vient de la volonté humaine, leur pratique d'humilité et l'obligation qu'elles imposent de traiter durement le corps, mais elles n'ont aucune valeur pour maîtriser les désirs de votre propre nature. Eh bien, nous pourrions peut-être maintenant relire le texte dans la version habituelle. Le voici, si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Voyez-vous, le légalisme ou le moralisme s'empare souvent des principes évangéliques, des véritables principes évangéliques, mais il les transforme. Il les transforme en contraintes. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Vous voyez, Dieu veut que les principes auxquels nous avons à obéir, et nous avons assez dit qu'il le fallait, eh bien que ces principes restent comme ils sont exprimés, avec leur si, avec leur invitation, leur forme d'invitation, mais ne prennent pas cette forme de contrainte, d'obligation extérieure à l'homme. Nous aurons l'occasion de voir que la loi parfaite de Dieu est une loi qui est écrite dans les cœurs. Instruisez-vous et exhortez-vous. Non, pardon, je change là deux passages. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et du mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Alors, vous voyez, j'ai voulu terminer par cette insistance. Nous ne tombons pas du tout dans le légalisme ni dans le moralisme. Nous ne tombons pas du tout là. Nous restons bien en présence, vraiment, de l'Évangile tel qu'il nous est donné. N'est-ce pas le Saint-Esprit qui a inspiré toutes ces choses? N'est-ce pas Dieu qui nous parle là? Et n'est-ce pas le Saint-Esprit qui maintenant toujours nous guide dans la méditation de ces choses? Alors, restons là et obéissons librement, librement à Dieu. Et c'est ainsi que notre vie chrétienne prendra son caractère, son grand caractère et son essor vers le haut, que le Seigneur le permette. Amen.
Alors, notre frère dit qu'on peut avoir reçu l'Esprit de Jésus, être entré donc dans la nouvelle naissance, et peut-être... voilà, c'est ça, être encore tenu, sentir qu'on n'est pas vraiment, vraiment libéré, libre, voilà.
Oui, mais comme nous sentons aussi que nous avons été libérés d'un certain nombre de choses, n'est-ce pas? Vous voyez, en somme, il y a en quelque sorte un partage, il y a des choses dont nous sentons bien que nous sommes délivrés, d'autres qui sont encore là et qui nous tiennent. Eh bien, avec, évidemment, la foi, l'humilité, l'amour, la piété, la persistance dans la prière, il n'y a pas doute que nous arriverons à étendre l'affranchissement à tout ce qui nous tient. Puisque nous avons pu être libérés d'une partie des choses, nous serons libérés de l'autre partie aussi. Mais il faut user de la piété, bien entendu, dans le cours de la vie chrétienne.
Voilà, donc...
Il semble que Timothée ait été saisi par cet esprit de timidité ensuite, puisque Paul lui dira de ranimer le don qu'il a reçu de lui par l'imposition de ses mains. Mais je crois qu'il s'agit là du don du Saint-Esprit, là, dans ce début de la deuxième à Timothée, n'est-ce pas, du don du Saint-Esprit, qui a été peut-être en partie couvert, ralenti, retenu, par cette timidité, et là, il faut que par la voie de la piété, Timothée s'en revienne au plein affranchissement. Là, c'est un certain retour qu'il y a eu par l'apparition de cet esprit de timidité.
Oui. Voilà, notre sœur Ania souhaitait que l'on puisse définir un petit peu parallèlement ou en même temps que la notion de liberté, celle de maître. Le dictionnaire dit que être libre, c'est de ne pas avoir de maître. Voilà.
Oui, mais cela, c'est le dictionnaire, lui, il est profane, n'est-ce pas? Il parle. Oui. Ce n'est pas Paul emploie ça, nous devenons esclaves de la justice ou esclaves de Jésus-Christ, mais c'est une manière de s'exprimer, il ne faut pas la prendre trop à la lettre, enfin, parce que n'oubliez pas ceci, c'est que Jésus a dit mon joug est léger et non pardon mon joug est doux et mon fardeau léger. Alors, nous sommes bien, évidemment, sous la gouverne, si vous voulez, d'un maître, autrement dit, ce maître va vivre en nous. Et nous allons pouvoir dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais cependant, les deux volontés, la volonté de Paul et la volonté divine, la volonté du Seigneur, se conjuguent ensemble, se conjuguent harmonieusement. Et nous ne pouvons pas voir ça comme la soumission à une domination. Non, c'est une... Ah ben, je ne vous ai pas laissé le temps de...
Même que... Voilà. Donc notre frère Hébert souligne ceci. Souvent dans le sens commun, on pense qu'être libre, c'est ne plus avoir de contraintes, de maîtres, etc., de choses à suivre et à observer. Est-ce qu'une telle liberté est réellement possible? Et il ajoute, et même Dieu, qu'en est-il pour lui? Est-ce qu'il est réellement libre? Enfin, je pense que c'est ça. En ce sens-là.
En ce sens-là. Eh bien, il faut dire que ce sens commun de la liberté, évidemment, qui est très répandu aujourd'hui, n'est pas le bon, et bien entendu, si on le conserve, il mène à l'anarchie. D'ailleurs, voyons ce qui se passe dans la société aujourd'hui, hein, où vraiment l'emprise de l'anarchie augmente. Qu'est-ce que Nietzsche avait dit, par exemple? Il avait dit que Dieu était mort et que on allait vers le nihilisme, et que le nihilisme était déjà en marche, et qu'on y allait, avec ce sens, précisément cette notion que vous venez de rappeler de la liberté. Alors quant à Dieu, lui, il est libre, bien sûr, mais il suit les lignes de sa sagesse. Dans le début de la Genèse, ne constate-t-il pas, en effet, en considérant ses œuvres, que cela était bon? Cela a été bon, cela a été très bon, n'est-ce pas? Voyez, donc Dieu lui-même est libre, mais il se sert de sa liberté pour satisfaire la justice, satisfaire son amour, faire exécuter tous les desseins qui sont dans la ligne de son amour et de sa sagesse. On peut dire évidemment que lorsque quelqu'un se trouve à un carrefour dans une forêt, je ne veux pas faire de parallèle avec le terme que nous employons ici. Mais quelqu'un est dans une forêt. À un carrefour, il y a des allées de tous les côtés. Alors il est libre de prendre l'allée qu'il voudra, mais s'il prend une certaine allée selon un mauvais principe, il n'ira pas où il veut, il n'obtiendra pas ce qu'il désire. Maintenant, s'il est hésitant et qu'il prenne une allée et puis revient en arrière, n'est-ce pas, s'engage dans une nouvelle allée pour revenir encore en arrière, il n'aboutira non plus à rien du tout. Alors, il faut que la liberté puisse décider, étant elle-même devant une sagesse, devant la lumière, étant, nous allons le voir, par la suite, devant la parole de Dieu. Mais la liberté, nous allons le voir par la suite, la liberté est indispensable cependant, parce que Dieu ne veut absolument pas être servi par des esclaves. Il ne veut pas que l'obéissance soit en réalité une contrainte. D'ailleurs, ce ne serait plus l'obéissance. Il faut que l'obéissance véritable et qui va produire son fruit soit libre. Hein, voyez-vous? Et en plus, nous verrons que la liberté et l'obéissance se conjuguant, nous irons vers, vraiment la possession de la grande liberté. Parlez de d'Adam.
Oui, d'Adam.
D'Adam, il semblait que vous aviez dit. Oui.
Notre frère demande donc, comment peut-on comprendre la notion de liberté dans la parole de Dieu, déjà à partir du texte de la Genèse, lorsque Dieu défend à Adam de manger du fruit de l'arbre?
Oui, alors, bien sûr, j'ai prévu dans l'étude la réponse à cela, vous le pensez bien, n'est-ce pas? Seulement, nous n'avons fait qu'une demi-heure, qu'une introduction pour l'instant. Mais nous verrons en effet que le commandement, hein, ce que vous appelez l'interdiction, appelons-le si vous voulez, le commandement de Dieu, en réalité est une limite, bien sûr, une limite, mais ce n'est pas une limite qui va enfreindre la véritable liberté, c'est une limite qui va simplement montrer à l'homme comment il doit user de sa liberté. Il va user de sa liberté dans le cadre de certaines limites, parce que s'il franchit ces limites, c'est pour lui la mort, c'est pour lui le désastre. Hein, voyez-vous? Alors, cependant, la liberté existe dans le jardin d'Éden. Il y avait, je ne sais pas moi, des dizaines de milliers d'arbres dont le fruit était bon à manger, n'est-ce pas ? Et il n'y a qu'un seul arbre dont le fruit est interdit. Vous voyez déjà, n'est-ce pas, statistiquement, comme la limite de Dieu était vraiment restreinte et petite par rapport à tout ce qu'il était possible de faire.
Notre frère Monsieur Eschler souligne que le fait qu'Adam était libre est prouvé par justement qu'il ait mangé de ce fruit. Il a eu la possibilité finalement d'en manger comme il avait la possibilité de ne pas en manger, c'est cela.
Oui, il était libre comme aujourd'hui nous sommes libres aussi, nous, de retourner dans les voies du mal. Nous sommes libres de faire ce que Dieu nous dit de ne pas faire. Mais si nous faisons ce que Dieu nous convie à faire, nous allons non seulement, nous le montrerons par la suite, non seulement conserver notre liberté, mais la fortifier. Tandis que si nous faisons le contraire de ce que Dieu nous dit, nous allons perdre la liberté. Je vais prendre un exemple. Mettez un garçon, n'est-ce pas, jeune, fringant, qui dispose d'une moto japonaise, là, peu importe la marque, mais alors quelque chose qui fonce, n'est-ce pas. Alors, il se dit, je suis libre. Et il s'en va sur les routes, il appuie, il va aussi vite que peut aller sa machine, il perd toute notion de prudence, et puis l'accident arrive. Et le lendemain ou le surlendemain, on le retrouve à l'hôpital, les jambes pendues en l'air, entourées de toutes sortes de pansements. Lui-même, n'est-ce pas, il est là privé de liberté physique et même de toute autre liberté. Alors, pour avoir fait un choix qui était mauvais, pour avoir méprisé, en somme, les lois de la sagesse, il a perdu sa liberté. Il a perdu, il peut même, s'il est infirme pour le reste de sa vie, il peut même l'avoir perdu définitivement. Vous voyez par conséquent que même dans le cadre de la vie terrestre, on ne peut pas user de sa liberté n'importe comment, sous peine de la perdre. Hein? Alors ce ne serait pas user de sa liberté pour la perdre, ce ne serait pas vraiment, n'est-ce pas, être libre, rester libre.
Sœur précise ceci, sa pensée, elle pense qu'il y a deux niveaux de liberté. Liberté un petit peu personnelle pour ses habitudes, ses petites affaires, une liberté un peu plus supérieure, celle, d'après ses mots, d'une conscience éclairée. Et elle pense que c'est, à la limite, un petit peu dramatique, je reprends votre terme, d'avoir cette grande liberté qui balayerait un petit peu notre personnalité.
Oui, alors évidemment, vous me faites toujours anticiper sur la suite. Oui, oui, bien sûr. Mais enfin, je vais vous dire tout de même ceci, c'est que le Seigneur, qui nous veut absolument dans la liberté, n'est-ce pas, et il n'y a pas plusieurs niveaux dans cette liberté, il nous veut vraiment dans une liberté, hein, une liberté réelle. Bien, il nous donne sa parole, il met sa parole devant nous, il met son esprit en nous. Christ, n'oubliant pas, si nous sommes chrétiens, est en nous, n'est-ce pas? On l'a rappelé suffisamment ce matin. Eh bien, le Seigneur va nous demander d'obéir à sa volonté, de faire sa volonté. Mais, alors, dans le cours de notre vie, de notre existence, au fil des événements, des circonstances, et qui vont se présenter des petites actions, des petites opérations que nous avons à faire couramment, n'est-ce pas, dans notre vie, eh bien, là, nous pouvons réfléchir nous-mêmes. Nous sommes conviés à réfléchir à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et nous sommes libres de décider nous-mêmes comment nous allons accomplir la volonté de Dieu. Il faudra, bien sûr, que nous y parvenions de mieux en mieux, si je peux dire, n'est-ce pas, de plus en plus, il faudra que nous parvenions à cela. Mais il est certain que nous pouvons, non pas à des degrés différents, mais nous pouvons peut-être, en choisissant une solution d'un côté ou une solution d'un autre côté, nous pouvons peut-être arriver tout de même à ne pas nous écarter de la volonté de Dieu. L'une des deux solutions ou des trois solutions sera plus ou moins satisfaisante à cet égard. Comprenez-vous, n'est-ce pas? Mais de tout sens, ce qui nous dirige, c'est de faire la volonté de Dieu dans les petites choses. Dans les petites choses. Alors, à nous, chrétiens, de réfléchir à cela, d'examiner toute chose, tout ce qui se présente devant nous, pour savoir faire le choix. Et permettez-moi de prendre rapidement un exemple biblique. Quand le Seigneur Jésus, accompagné de Pierre, est entré à Capernaum, eh bien, il y avait un choix à faire pour accomplir la volonté de Dieu. Et c'était ou bien de payer les 10 drachmes, ou bien de ne pas les payer. Étant fils, dit le Seigneur Jésus, nous pourrions ne pas les payer. Par conséquent, il n'y aurait pas eu là, semble-t-il, d'entrave, enfin, de non-accomplissement de la parole de Dieu. Mais le Seigneur Jésus va choisir de payer. De payer, ils n'ont pas d'argent, ni Pierre, ni le Seigneur n'ont d'argent, mais il y a le Seigneur qui est là, il y a le surnaturel et le miracle à quoi on peut s'attendre, n'est-ce pas, pour faire la volonté de Dieu. Alors, là, le Seigneur préfère, pour le témoignage, voyez-vous, pour le témoignage, il préfère que l'on paie. Hein, que l'on paie, alors qu'on aurait pu très bien se dispenser de payer, n'est-ce pas? Vous voyez, il y avait deux solutions là, mais le Seigneur choisit, lui, celle qui accomplit le mieux la volonté de Dieu, dans la circonstance étroite où il se trouvait.
Voilà, notre frère Marc nous rappelle qu'il est dit dans la parole de Dieu que nous devons tendre vers la perfection. Et il pose la question... En est-il de même en ce qui concerne la liberté?
La liberté est comme la vie nouvelle, quelque chose de parfait et d'entier. Mais, comme je viens de le dire là maintenant, c'est dans les voies que nous allons suivre, et que nous allons apercevoir nous-mêmes pour accomplir la volonté de Dieu. Alors c'est ça, n'est-ce pas? C'est ça qui nous guide, accomplir la volonté de Dieu. Alors, dans les voies que nous allons prendre, dans les débuts peut-être de notre vie chrétienne, nous serons moins bien avisés que plus tard. Plus tard, nous serons mieux instruits, nous aurons fait des expériences, nous aurons l'expérience de la parole de justice, et alors nous saurons mieux, voyez, dans les circonstances de la vie, accomplir la volonté de Dieu. Mais la liberté, elle est entière. Elle n'est pas chose progressive, pas plus que la vie nouvelle. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Eh bien, ça non plus, ça n'est pas à mettre à des degrés divers. Hein. Seulement, étant une nouvelle créature et ayant encore en nous la chair et vivant dans ce corps de mort, vivant dans un milieu qui est hostile à la vie chrétienne, dans le monde, c'est pas un milieu qui est hostile à la vie chrétienne, nous n'aurons pas tout de suite l'expérience de la parole de justice. Et par conséquent, nous allons employer des solutions, des voies qui tendront à faire la volonté de Dieu, mais qui ne seront pas toujours très bonnes ni parfaites. Cela viendra par la suite. C'est ça qui va se perfectionner. Ceci, c'est que, chère sœur, vous êtes là, en somme, au carrefour de deux pensées. C'est vraiment le carrefour aujourd'hui. Nous sommes au carrefour de deux pensées qui sont bien connues. L'une qui veut que... tout notre comportement, tout ce qui fait notre comportement, nous, enfants de Dieu, bien sûr, quand nous disons que nous sommes nés de nouveau, ça veut dire que nous sommes enfants de Dieu. Et enfants de Dieu, c'est Dieu qui l'a déclaré. C'est pas nous, n'est-ce pas? Dieu nous dit, voilà, maintenant tu es enfant de Dieu. Bien. Et alors, l'une des deux pensées veut donc que tout dans notre comportement soit presque automatisée. Voyez-vous, le mot était peut-être excessif, c'est-à-dire que tout vraiment soit étroitement dirigé par Dieu, par l'Esprit de Dieu. Et puis l'autre pensée, et voilà où se situe le carrefour, l'autre pensée qui veut au contraire que nous jouissions d'une liberté d'appréciation aussi, n'est-ce pas, de nos actes, petits ou grands, de la manière dont nous allons nous comporter. Eh bien, c'est cette seconde pensée qu'il faut voir sans nuire en rien au principe que vous avez rappelé. Autrement dit, le Seigneur notre Dieu veut par son esprit nous diriger dans les voies de l'obéissance, de l'accomplissement à sa volonté. Ça, c'est majeur. C'est pas ? Il veut nous diriger, mais nous diriger à travers nos mains libérées. C'est-à-dire qu'il veut que nous prenions nous-mêmes responsabilité, conscience et responsabilité de ce que nous allons faire. Et que ce ne soit pas vraiment quelque chose d'immanquable, si vous voulez, d'automatique, voyez-vous, voyez. Dieu veut, par conséquent, nous diriger par son esprit, mais à travers la liberté qu'il nous a donnée. N'oublions jamais ça. Par conséquent, nous avons responsabilité. Alors, vous avez raison de dire qu'il faut user de la grâce, bien sûr. Enfin, et nous arriverons précisément à user de notre liberté de façon satisfaisante, nous ferons ce qui est agréable à Dieu, comme Jésus pouvait le dire, ferons vraiment ce qui est agréable à Dieu, lorsque nous ferons appel à la grâce. Je crois que la grâce est non seulement une faveur, charis, non seulement une faveur, mais qu'elle est aussi l'apport d'une force, d'une puissance. Mais cette puissance étant utilisée, c'est pas, par l'enfant de Dieu, je reprends l'expression, par l'enfant de Dieu dans sa liberté. Dieu donc veut nous diriger, nous, à travers nos mains, notre personne libérée. Voilà.